Pour ma présent, je vous dis tout de suite que cette étude est la partie la plus théorique. Hein. C'est la plus. J'espère qu'elle n'est pas ennuyeuse, mais c'est la partie la plus théorique parce que ça devient beaucoup plus pratique après. Mais je pense que c'est le fondement. Alors, vous connaissez les mots du Nouveau Testament, les mots grecs, agapao ou agapé, et puis le mot philéo. Ce sont les deux mots grecs qui décrivent l'amour dans le Nouveau Testament. Alors, on peut regarder l'apôtre Jean, Jean 17, des choses tout à fait générales que vous connaissez déjà. Dans le verset 26, Jésus parle à son père et il dit, je leur ai fait connaître ton nom, c'est Jean 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé, agapao, soit en eux et que je sois en eux. Donc agapé, ça décrit l'attitude de Dieu envers son fils. Le père aime le fils avec l'amour agapé. Jean 3, 16, car Dieu a tant agapé le monde. Dieu porte cet amour agapé à la race humaine en général. Romains 5, 8, car Dieu prouve son agapé envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 14, 21, le Seigneur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, Jésus dit, si vous me gardez mes commandements, je vous aimerai aussi de l'amour agapé. Donc, c'est un amour particulier de Jésus-Christ envers ceux qui lui obéissent. Alors, cet amour agapé, vers, chapitre 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Alors, le Seigneur dit, voilà, j'ai une volonté pour vous. Il y a quelque chose que je recherche chez vous. Je voudrais que vous manifestiez, que vous ayez dans votre cœur, cet amour agapé les uns pour les autres, entre chrétiens. L'amour agapé. Vous dites, mais moi j'aime beaucoup les nouveaux chrétiens qui viennent dans l'église pour la première fois. Non, on ne les aime pas parce qu'on sait qu'on n'a rien contre eux, c'est tout. On n'a rien contre eux parce qu'on ne les connaît pas. On est plutôt favorablement disposé parce qu'on aimerait que l'Église se remplisse, donc toute personne nouvelle est bienvenue. Hein? Et les personnes qui viennent pour la première fois, ils n'ont pas d'agapé pour les gens d'ici. Enfin, ça peut être un amour agapé, mais c'est tout théorique. On verra si c'est agapé à l'usure. Parce que à mesure que dans une Église, on est usé par l'Église et on use l'Église à son tour. Hein? Mais cet amour agapé, ce n'est pas l'amour justement de gens qui viennent de se rencontrer. C'est l'amour qui doit être entretenu et travaillé et développé dans notre cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Alors on peut dire évidemment, mais telle personne, si j'étais à sa place, je n'agirais pas comme elle. Évidemment. Attendez. Si vous étiez à sa place, peut-être que vous agiriez exactement comme elle. Qu'est-ce que je dis là? Hein? N'est-ce pas ce qu'on dit? Si j'étais à sa place, je ne ferais pas comme elle fait. Peut-être, puisque vous êtes vous. Mais si vous n'étiez pas à sa place, vous ne ferez pas comme elle fait. De toute façon, vous ne ferez jamais comme elle fait parce que vous n'êtes pas elle. Mais si j'étais elle, et à sa place, je ferais comme elle. J'aurais sa personnalité, j'aurais son caractère, j'aurais ses forces et ses faiblesses, et donc j'agirais comme elle si j'étais elle, évidemment. Ça, c'est un peu des raisonnements un peu spécieux, hein? Mais c'est vrai. Donc, les gens soient différents de nous, il n'y a rien d'étonnant parce qu'ils ont des caractères différents du nôtre. Ils ont un passé différent du nôtre. Ils ont des réactions différentes des nôtres. Ils ont des faiblesses et des vertus différentes des nôtres. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Vous savez, malgré tout, on est un peu formaté. Hein? On est un peu formaté par nos églises et par ce que l'on a vécu. Vous avez des gens qui arrivent d'autres églises, mais c'est bizarre ici, c'est pas comme dans l'église d'où je viens. Et comment c'est dans l'église d'où vous venez? Eh bien, à la fin du culte, on se met tous en cercle, on se tient la main et on chante « Béni soit le mien ». Là, au moins, j'étais dans une église et on fait ça. Et là, au moins, on sait qu'on s'aime. Mais ici, il n'y a même pas de cantique à la fin du culte, que Dieu vous bénisse. Pour... Ah, bon, non. OK? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour agapé ici. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de cette manière de l'exprimer. Et donc, on est tous un peu formatés par notre expérience, notre vécu au sein d'une église. Nous sommes formatés par un certain pasteur. Et quand un autre pasteur vient, on le trouve curieux et différent parce qu'il n'est pas comme le premier. C'est pas pareil. C'était mieux avant. Mais combien de fois l'ai-je entendu? Je l'ai entendu par rapport à mon prédécesseur et mon successeur l'a entendu par rapport à moi. Et savez-vous quoi? Généralement, au bout de 3-4 ans, les gens commencent à dire « c'était mieux avec l'autre ». On estime pendant les deux premières années, il y a une espèce de lune de miel entre le nouveau pasteur et son troupeau. Après, ça commence à se dégrader, comme dans un couple. Et après, on commence à... Mais là, comme il n'y avait pas de partenaire avant, ça va. Donc, mais par rapport au pasteur, il y avait un pasteur avant, il y a un pasteur maintenant. Et celui-là, il n'est pas comme l'autre. L'autre, mais ils sont pas pareils. Faites-vous aider, ils ne sont pas pareils. Ils n'ont rien en commun. Ils sont totalement différents. Et ce qui est terrible, c'est qu'un jour, on va le dire à votre sujet. Quand vous ne serez plus en position de responsabilité, etc., on va dire de votre successeur, « Ah, heureusement que vous êtes là parce que votre prédécesseur était nul. » Et au bout de 3-4 ans, votre successeur entendra « Quand même, votre prédécesseur n'était pas si mal que ça à côté de vous. » Mais c'est normal, c'est logique, c'est humain, d'accord? Il ne faut pas être étonné de ces réactions-là. C'est tout à fait vrai et c'est normal parce qu'on n'est pas pareil les uns et les autres. Alors comment est-ce qu'on peut développer cet amour? Il faut donc quitter ces critères. Il faut totalement quitter ces critères de formatage. Et il faut s'en tenir à des critères objectifs. Premier critère objectif, est-ce que cette personne aime sincèrement le Seigneur pour autant que je puisse discerner? Est-ce que je crois qu'elle aime le Seigneur? Non. On va dire non, on va dire oui. Elle a des défauts, mais alors, comme une maison, des défauts, mais je crois que malgré tout, elle aime le Seigneur. Bon. Deuxième critère, est-ce que cette personne, d'après vous, cherche à faire le travail de son mieux? Est-ce qu'elle cherche à faire le travail de son mieux? Oui, je suppose. Elle est un peu incapable, mais bon, je pense qu'elle fait ce qu'elle peut. Non, je suis assez dur, mais pas plus dur que les gens le sont dans leur tête. Mais je crois qu'honnêtement, la personne cherche à faire de son mieux. Bon. Troisième critère, qui va répondre du ministère de cette personne devant Dieu? Est-ce que c'est moi qui vais répondre ou est-ce que c'est la personne qui va répondre? Oula! Bonjour. C'est la personne qui va répondre, la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, n'est-ce pas? Bon, on a posé trois grandes questions. On a eu trois réponses. Maintenant quoi? L'amour agapé. Donc, je vais accepter cette personne comme elle est, avec ses défauts et ses qualités. Je vais accepter et croire que la personne fait du travail de son mieux, qu'elle anime de bons sentiments pour son ministère. Et je vais prier pour elle parce que Elle va rendre des comptes à Dieu pour son travail. Je vais prier que Dieu la bénisse, que Dieu l'aide. Ces trois critères nous permettent d'avoir un amour agapé pour tout le monde et désirer réellement la bénédiction de Dieu sur eux et sur leur vie. Quand nous quittons ces trois critères objectifs, nous tombons dans des critères subjectifs. Qui sont quoi? Cette personne me plaît-elle? Non. Est-ce que j'arrive à supporter cette personne? Plus. Est-ce que c'est des critères subjectifs ou objectifs, ça? C'est des critères subjectifs. C'est basé sur le jeu. Ce n'est pas basé sur Dieu ni sur l'autre. C'est basé sur moi, ce que je perçois. Et en établissant des critères objectifs dans notre pensée, nous pouvons choisir d'avoir un amour agapé pour nos frères et pour nos sœurs. Dieu n'a pas dit « plaisez-vous les uns aux autres ». On doit essayer de plaire aux autres. Il ne faut pas être difficile exprès. On appelle quelquefois des gens difficiles des bâtisseurs de grâce. Des bâtisseurs de grâce dans mon caractère, parce qu'il faut beaucoup de grâce pour les supporter. Et sans des gens difficiles, on ne supporterait plus rien. Hein? On serait extrêmement pénible soi-même, on serait très, très exigeant. Et à force d'être avec des gens qu'on peine à supporter, on développe la capacité de supporter. Et ça fait partie de l'amour agapé. Ça fait partie de la maturité du caractère. Qu'est-ce que c'est que la maturité du caractère? En partie, c'est ceci. Les réactions sont prévisibles. Les réactions sont prévisibles. Comment quelqu'un va-t-il réagir si vous lui dites ceci? Si j'étais à votre place, je ne dirais pas ça. Et pourquoi? Tu risques d'avoir le poing sur la figure, hein? Il risque de te... etc., etc. Et remarque, il peut très bien le prendre aussi, hein? Ça dépend comment il est... s'il est bien luné, s'il est mal luné, s'il est levé du bon côté du lit. Enfin bon, ça dépend, hein? Tentez vos chances, hein? Mais enfin, je ne veux pas être dans les parages, hein? Puis je prierai pour vous. C'est quoi? C'est une grenade dégoupillée qui se promène et on ne sait jamais quand elle va exploser. C'est quoi? C'est pas forcément du péché, mais c'est un manque de maturité, c'est tout. Un manque de maturité spirituelle, attention. Manque de caractère chrétien. Alors l'autre scénario, si nous arrivons un jour, frères et sœurs, à ceci, comment va-t-il réagir? Et je crois qu'il va vraiment écouter attentivement ce que tu vas dire. Il va poser des questions pour savoir s'il a bien compris ce que tu voulais dire. Et puis, il va sûrement dire, écoute, je vais réfléchir, je ne peux pas te répondre. Merci d'avoir le courage de me le dire, hein. Je sais que c'est bien. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord. Ou bien, non, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, mais... Ça sera de toute façon fraternel. Vous voyez la différence? Prévisible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon. C'est ce que le Seigneur demande à nous, les uns vis-à-vis des autres. C'est ce qu'il demande pour nous envers tous les hommes. En Corinthiens 16, 14, par exemple. Cet amour agapé. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Pouf. Petit verset, grand message. Hein. Ce que je fais, je dois reprendre tel frère. Pire. Tel frère va me reprendre. C'est pire. Toujours. Enfin, je ne sais pas ce qui est pire. Hein. Je préfère, je crois, être repris que reprendre. Parce que je sais demander pardon. Je sais reconnaître mes erreurs. Après un premier petit moment d'irritation que j'essaie de ne pas montrer, normalement, je sais reconnaître mes erreurs et demander humblement pardon. Mais c'est tellement plus pénible de reprendre quelqu'un, tu ne sais pas comment il va réagir. Et s'il va cesser de t'aimer, si tu... Je ne sais pas. C'est très difficile de faire les deux. Les deux sont essentiels. Il est essentiel de reprendre des gens, il est essentiel qu'on soit repris quelquefois par les gens. Ça fait partie du jeu interpersonnel de l'Église locale. Ça fait partie du jeu de la sanctification. Mais il dit, dans ces deux circonstances, assurez-vous que vous le faites ou que vous le recevez avec l'amour de Dieu, agapé. Alors, 1 Jean 4, 18, vous connaissez ce verset, Dieu est amour, c'est la nature essentielle de Dieu. Dieu est saint, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 6. Dieu est amour aussi, Nouveau Testament. L'amour de Dieu est dans l'Ancien Testament et la sainteté de Dieu est dans le Nouveau Testament. Mais on a ces deux grands pôles, amour et sainteté. Alors, quelle est la nature de l'amour de Dieu? Quelle est la nature de cet amour agapé? Regardons 1 Jean 4. Vous êtes, ça va vous étonner. La nature de cet amour. Versets 9 et 10. La nature de l'amour agapé. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, quelle est donc la nature de cet amour? Cet amour n'est connu que par les actions qui l'a motivé. On ne peut pas aller vers quelqu'un en disant « je t'aime » avec l'amour agapé. On peut le dire, on peut tout dire. Mais ce n'est pas du tout le sens du mot « je t'aime avec l'amour agapé ». Ce n'est pas le sens du tout de ce mot. Le sens du mot agapé, c'est « je vais te servir ». Je vais te servir que tu me dises merci ou que tu ne me dises pas merci. Je vais te servir et je vais t'aider, je vais être à tes côtés et je vais te soutenir et je vais prier pour toi fidèlement, quelle que soit ta réaction envers moi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'amour de Dieu a été manifesté par un acte. Verset 10. Cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Nous n'étions pas intéressants pour Dieu. Nous n'avions pas demandé un service à Dieu. Nous n'avions pas pleuré devant Dieu en disant, « Seigneur, vraiment, nous t'aimons, sauve-nous et permets-nous d'aller dans ton ciel avec toi. » Non! On vivait comme si Dieu n'existait pas. On se moquait de Dieu. On se croyait Dieu nous-mêmes. Dieu, ouais, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde? Dieu, il a intérêt à avoir une bonne excuse. S'il existe, il a intérêt à avoir une bonne excuse quand je le rencontrerai, parce que moi, j'ai des questions à lui poser. Ça s'est sorti à la télévision il n'y a pas longtemps. Devant une telle attitude, comment Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils pour mourir pour les péchés de ces gens-là. Pendant qu'il se moque de lui, il dit, voilà, amour agapé. C'est dans l'acte qu'on le voit. Ce n'est pas dans les paroles. Hein. Alors moi, je trouve ceci intéressant. Dans une église, et je l'ai vu tant de fois, vous avez des gens qui sont pleins d'amour, philéo, pleins d'amour, affection. Oh, mon cher frère. Nicolas, que je n'ai pas vu depuis des siècles. Oh, mon cœur, il bondit. Oh, vraiment, quel plaisir immense. Oh, vraiment, j'en perds le souffle tellement, je suis content de te voir. Il va partir. Soit il joue un grand jeu, soit il m'aime vraiment comme personne ne m'a jamais aimé. Hein? Philéo, j'ai envie qu'on soit ensemble, qu'on se prenne dans les bras, qu'on mange ensemble, etc., etc. Puis vous avez d'autres gens qui n'ont pas du tout ce genre de salutation. Ça va, oui, ça va. Je suis là, je ne dis même pas bonjour, oui.
Bonjour, mon bien-aimé.
Celui-là, il a l'air d'une porte de prison. Celui-là, je sais qu'il a haine dans son cœur, je le vois sur sa tête. Regarde sa tête. N'est-ce pas comme ça que nous pensons quelquefois? Il ne faut pas se laisser prendre par ses apparences. On tombe dans le filéo. Il faut regarder ce que la personne fait. Ce que la personne fait. Un tel, il prend des responsabilités. Un tel, il donne du temps pour l'église. Un tel, il vient avant l'heure pour faire telle chose. Un tel, il enseigne les enfants. Un tel, il s'occupe des comptes. Un tel, il fait ci. Un tel, il fait ça. Et il le fait fidèlement, sans jamais broncher. On peut compter sur lui. Si on a besoin d'un service, on peut lui demander. Voilà, et voilà, et voilà. Où est l'amour agapé? Où est l'amour agapé? Intéressant. Dieu n'est pas descendu sur terre pour dire « Adam, dans mes bras, mon petit. Oh, Ève, viens, toi aussi, t'es ma fille. » Non. Où êtes-vous? Adam, où es-tu? Je suis là derrière le buisson, je me cache. Et pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu avec Ève, on est là, et puis... Et qui vous a appris que vous étiez nu? Eh, c'est qu'on a mangé le fruit défendu. Ah, ça n'a pas l'air d'être un grand amour. Dieu a l'air un peu sévère. Oh, oh. Voilà, as-tu goûté à l'arbre absolu? Voilà, voilà. Mais quand on voit, est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'ai défendu? Ça a plutôt l'air d'une accusation, n'est-ce pas? Il faut voir la suite. Il faut voir ce que Dieu a fait. Et on dit, tiens, c'est de l'amour agapé. Alors, ne demandez pas aux autres de manifester leur amour pour Dieu comme vous manifestez votre amour pour Dieu. Si vous êtes plutôt du genre peu démonstratif, ne demandez pas à tout le monde d'être peu démonstratif comme vous. Il y a tel frère, telle sœur qui est là, oh là, c'est merveilleux. Dites, gloire à Dieu, super. On a besoin de gens comme ça dans l'Église. Moi, je trouve ça un peu pot de colle, mais ma foi, d'autres trouvent ça bien. J'accepte ce frère, il est comme ça, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Et d'autres le sont beaucoup moins. Eh bien, eux aussi aiment Dieu. Alors le sentimental va regarder l'autre, il dit, lui n'aime pas Dieu parce qu'il n'est pas là avec ses frères et tout. Et... L'amour de Dieu va se manifester d'autant de manières différentes qu'il y a de gens dans l'Église. Nous revenons à nos objectifs, à nos questions objectives. Cette personne, est-ce que je la crois sauvée par Jésus-Christ? Ah oui, quand même. Est-ce que je crois qu'elle aime le Seigneur sincèrement, pour autant que je puisse discerner, sans regarder la manière dont elle exprime? Oui, oui, je crois. Est-ce qu'elle fait son travail de son mieux? Oui, je pense. J'ai aucune raison de douter, de soupçonner. Pas de raison. Bon, eh bien... Cette personne aime le Seigneur autant que moi, peut-être plus que moi. Peut-être plus que moi. Qui suis plus démonstratif. Et j'accepte cette personne comme elle est. Mon frère ou ma sœur. C'est cette attitude que nous devons adopter et cette attitude nous poussera vers les actes appropriés à notre caractère. L'un va venir vers Nicolas comme je l'ai fait tout à l'heure. Un autre va venir vers Nicolas. Bonjour Nicolas, ça va? Très bien? Formidable. Bon courage, frère. C'est pas très, très chaleureux. Hein? Voilà une autre manière. C'est encore moins chaleureux. Est-ce que la personne est animée de l'amour de Dieu? Certains disent non. Alors non, hein, serrer la main sans toucher l'épaule et tout ça, ça c'est pas l'amour de Dieu. Il faut toucher l'épaule, il faut prendre la main dans les siennes, il faut le regarder dans les yeux. Faut... Bon, il y a, c'est vrai, il y a une manière de saluer les gens qu'on doit aussi apprendre. Et surtout, si vous pensez être pasteur ou si vous êtes à l'accueil de l'Église, il y a une manière d'accueillir les gens. Tout le monde vous le dira. Il y a des gens comme ça qui font... C'est ce que ça communique. On n'a pas le droit de douter que cet amour, cette personne a de l'amour de Dieu dans son cœur, mais en tout cas, on ne le perçoit pas. On ne le perçoit pas. Et là, nous devons aussi veiller à ce que les gens perçoivent l'amour dans notre cœur pour les autres. Par quoi ça passe? Eh bien, au moins, par un regard. Par un regard. Un regard. Dans les yeux. Poignée de main, peut-être. Poignée de main. Ferme et chaleureuse. Bonjour, Nicolas. Comment vas-tu? Un sourire, le regard, une courte question, une bonne poignée de main. Ça communique quoi? Cette personne s'intéresse à moi. Elle connaît mon nom. Elle me salue fraternellement, les yeux dans les yeux. Je peux penser, en même temps que je salue Nicolas, Nicolas a de très grands problèmes dans sa vie, des problèmes spirituels, et il faudra que je parle avec lui, qu'on mette des choses en règle demain, à la première heure. Ça peut passer par ma tête. Mais ça n'empêche pas que c'est mon frère en Christ, et que je lui dois de l'amour, de la considération et de l'affection. D'autant plus que demain, ma parole passera mieux, parce qu'aujourd'hui, je l'aurai salué correctement. Donc, mais évidemment, on peut être aussi un commercial. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Nicolas Baggio, c'est ça, je crois. Hein? Je n'oublie jamais un nom. Ça, c'est parce que je suis commercial. D'ailleurs, mon chiffre d'affaires, il est incroyable. Vous savez, je suis le meilleur vendeur de tout Paris. Alors, c'est pour ça que je sais faire, quoi. C'est pour ça que je sais te saluer comme je dois te saluer, tu vois. C'est parce que j'étais formé à ça. Force de vente. Une des meilleures écoles de France. Voilà. Alors, tu vois, avec ça, je te mets dans ma poche, je te vais signer le contrat. Aucun problème, tu vois. Bon, zéro, hein, évidemment. Là, c'est le gars qui veut se faire voir. Donc, tout cela n'a pas de place. Premièrement, cultiver cet amour agapé pour mon frère et ma sœur, c'est un ordre de Dieu, et le manifester de la manière qui est la mienne. Aussi bien que je pourrais le manifester. Manifester sans la décision d'aimer la personne, c'est hypocrite. Et si je l'aime sincèrement, mais je ne cherche pas à le manifester comme je dois le manifester, les gens ne verront pas cet amour et je ne pourrai pas leur faire du bien. J'ai beau dire que j'ai un amour agapé pour Jean là-bas, mais si je ne le regarde jamais, si je ne lui parle jamais, si je ne m'intéresse pas à lui, si je lui serre la main en regardant quelqu'un d'autre en face de ça dans quelqu'un d'autre, il aura l'impression que je ne m'aime pas des masses. Et il rentrera à la maison, il sera un peu triste parce qu'il a ressenti. Dans le cœur et dehors, les deux doivent avoir lieu. Bon, vous dites, je ne vois pas du tout qu'est-ce que c'est que cette réunion sur la famille et le couple. Mais ça s'applique au couple aussi. Il y a énormément de couples dont la femme dit « je ne crois pas que mon mari m'aime ». Il arrive le soir, « c'est prêt ?» Enfin, tu pourrais dire bonjour, ouais, bonjour. Bon, oui, mon journal. T'as pas fait le feu dans la cheminée? Oh mince, alors. Moi, j'ai bossé toute la journée pour ramener de l'argent et tout. Tu n'as même pas fichu de faire le feu. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Vous demandez au monsieur, mais moi, j'aime ma femme. Évidemment, j'aime ma femme. Oh là, mais je n'aime qu'elle. Évidemment, je suis fidèle. Elle, je n'ai pas trop l'impression qu'il m'aime. Là aussi, il faut apprendre à manifester cet amour. Ce que l'on dit, ce que l'on pense, c'est une chose. Mais il faut que ce soit manifesté aussi fidèlement que possible. Maintenant, il faut que la femme comprenne aussi, là on parle un peu dans la psychologie du couple. La femme, elle a envie de verser son cœur devant son mari toute la journée, ce qu'elle a fait, etc., etc., etc. Dès qu'il passe la porte, « Oh chérie, il faut que tu te racontes. Il faudrait qu'elle se maîtrise un peu, qu'elle lui donne à manger. » Déjà, ça ira beaucoup mieux. Quand il a la pensée pleine, il peut un peu mieux écouter. Pour lui dire, j'aimerais bien te parler ce soir. Et il faut que lui, de son côté, prenne le temps de vraiment écouter. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. 1 heure du matin, on se couche. On est fatigué, crevé. Ma femme, quelques minutes après, en larmes. Tu ne m'aimes pas? Mais je t'aime, pourquoi tu dis que je ne t'aime pas? C'est 2 heures du matin, je suis fatigué, on est crevé. Allez, dormons, on verra ça demain. Je ne peux pas, il faut qu'on parle maintenant. Et moi, oh, je me souviens, les premières fois, à la fin, je me lève, je mets les lunettes. Mais qu'est-ce que tu fais, tu mets tes lunettes? Bah, je mets la lumière, je mets la lumière. Pourquoi tu mets la lumière? Je voulais juste te parler. Mais je veux, bon, je vais te regarder. Bon, maintenant que tu m'empêches de dormir, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous dites, c'est pas possible, c'est possible. Ça n'arrive plus jamais. Hein. Ça n'arrive plus du tout parce que j'ai compris au bout d'un petit moment, au bout de quelques années, qu'elle avait le droit à mon attention à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et j'ai appris, un peu à la difficile, que si je lui donne le temps dont elle a besoin, si je l'écoute réellement et attentivement, et si je demande pardon pour la chose, d'abord, je pourrais me coucher plus tôt. Et elle sera beaucoup plus heureuse. Beaucoup plus heureuse et plus amoureuse aussi, évidemment.
Et le rose-bif sera cuit.
Et voilà. Non, de toute façon, le rose-bif serait toujours bien cuit parce qu'il y a quand même la fierté du métier. On va quand même faire de son mieux, quelle que soit la relation entre son mari et soi-même. Ça, c'est le principe de la fierté personnelle. Mais pour la relation conjugale, quand l'un ou l'autre dit stop, on a besoin de parler, il faut freiner les quatre fers, vous mettez les autres choses de côté. Souvent, ça ne prend pas longtemps, mais il faut le prendre ce temps-là. De suite. Et c'est la même chose avec les enfants. Là aussi, on a pris à nos dépens, des gens viennent à l'église, « Oh, il faut que je te parle, pasteur. » Et la petite fille Esther qui vient, 5 ans, « Papa, laisse-moi tranquille, Esther. Oui, et qu'est-ce que vous disiez? Ça, c'est important. Cette personne, c'est important. Papa, laisse-moi tranquille. Papa, quand c'est qu'on part, j'ai faim. » C'est après le culte, 1h30 de l'après-midi. Hein? Et le gosse, évidemment. C'est important de dire à la personne, parce que ces gens-là, vous les aurez toujours. Les gens qui veulent vous parler, et puis ces gens considèrent qu'ils sont la personne la plus importante de l'univers. Et donc, vous, le petit pasteur, vous devez les écouter. Et de suite maintenant, quand ils veulent, parce qu'eux, ils n'ont pas trop de temps, eux, ils sont pressés. Donc, vous devez les écouter quand eux, ils ont envie de parler. Très bien. Seulement, vous avez une responsabilité envers cet enfant. Et on a beaucoup mieux fait de dire, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Quand est-ce qu'on s'en va? Eh bien, quand j'ai parlé avec ce monsieur, etc., on partira. Tu vas aller jouer avec ta soeur, d'accord? Ok, papa, c'est fini. 30 secondes! Mais l'enfant dit, mon père m'a écouté, il a compris mon besoin, il a répondu clairement, il m'a donné quelque chose que je pouvais faire, et excusez-moi, monsieur. Et si les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? Mais cet enfant, c'est mon enfant, monsieur. qu'est-ce que vous disiez maintenant? Ne demandez jamais pardon de mettre votre famille à la première place. Sans fanfaronnade, bien entendu. Mais c'est très important que votre famille sache que vous êtes là avant tout pour elle. Et bien sûr, à la maison, on explique aux enfants par la suite, quand papa parle avec quelqu'un, tu n'interromps pas. Et quand c'est urgent, c'est urgent. Qu'est-ce que vous penseriez de l'amour d'un pasteur qui rabrousse ses propres enfants? Hein? Qu'est-ce que c'est comme père? En tout cas, tout ça, cet amour agapé est connu par les actions qu'il motive. Romains 5,8 nous montre que l'amour agapé n'est pas en fonction de l'excellence des objets de son amour. L'amour agapé ne se préoccupe pas si les gens sont dignes d'être aimés. Ça n'entre pas en ligne de compte. On les aime, point. On les aime, point, c'est tout. C'est un exercice de la volonté par un choix délibéré. Regardons Deutéronome 7, 7 et 8. Deutéronome 7, 7 et 8. Ah, j'aime beaucoup ce texte parce que Dieu explique à son peuple pourquoi il a choisi. Et vraiment, à la fin, on demande pourquoi il a choisi. Comme le gars qui dit, je t'ai choisi pour être ma femme. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'étais belle, non pas particulièrement. Ah bon? Et parce que je suis intelligente, non plus. Ah bon? Parce que j'ai du charme. Pas tant que ça. Bien ça alors. C'est le ballon qui se dégonfle là. Hein? Quand Dieu a choisi son peuple, normalement, quand un homme choisit une femme, il y a quand même quelque chose qui l'attire. Hein? Mais regardez comment Dieu a choisi Israël. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération, etc. Alors, avec ça en vue, vous prenez les prières de l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était... Les ennemis étaient tout autour, tout était perdu, ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit un prophète, soit un roi, amenaient tout le peuple sur le parvis du temple et ils priaient. Quelque chose dans ce sens-là. Seigneur, nous sommes dans la difficulté, nos ennemis sont autour de nous, nous allons périr. Seigneur, souviens-toi du serment que tu as fait à notre père Abraham, Isaac, Jacob, à nos pères, à David, ton fidèle serviteur, la promesse que tu as faite, Seigneur, pour l'amour de ton nom, à cause de ton serment, délivre ton peuple. Ça a marché chaque fois. Chaque fois. Et chaque fois qu'il priait, il priait dans ce sens-là. Et pourquoi ça marchait? Parce que Dieu avait dit. Pourquoi il les avait choisis? Parce que je vais maintenir mon serment envers mon père. Je suis fidèle à moi-même. C'est pour ça que je suis fidèle à vous. Quelquefois dans le mariage, ça va tellement mal, quand on se pose la question, pourquoi je reste marié avec cette personne, avec ce nul de mari ou avec cette femme, complètement ravagée, la pauvre. Quand on se pose, bon, ce n'est pas arrivé, vous êtes trop jeune couple, là, mais, et quand ce moment peut arriver, vous dites, je reste marié parce que j'ai fait le serment. Et je vais être fidèle à la promesse que j'ai faite. Je n'ai pas fait la promesse parce qu'elle était magnifique. J'ai fait la promesse parce que c'est la promesse que je devais faire. On a bien dit dans la santé, dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, etc. Dans toutes les possibilités de ce que la vie peut offrir ou peut nous faire subir, on a fait cette promesse. Et quelquefois, la seule raison de rester ensemble, c'est à cause de cette promesse. Et après, on retravaille la relation pour faire revenir l'amour philéo. Mais là, c'est l'amour agapé qui tient le mariage ensemble. Donc, Dieu a dit, j'ai fait un choix délibéré, c'est dans ma nature de vous aimer parce que j'ai décidé de vous aimer. Point à la ligne. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'aimable chez vous. Alors, l'expression suprême de cet amour, c'est Jésus-Christ lui-même, l'amour de Dieu, envoyé en Jésus-Christ. Cet amour s'exprime parmi les chrétiens par le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, agapé. Le Saint-Esprit seul est capable de produire en nous l'amour de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit. Et il est disponible pour nous chaque fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux arriver à aimer quelqu'un dans l'Église que je ne supporte pas? Ça ne vous arrive pas, mais ça pourrait vous arriver un jour. Si vous restez dans l'Église assez longtemps, si c'est votre troisième dimanche ici, vous n'avez pas ce problème. Savez-vous où sont les plus grands problèmes des interpersonnels dans une Église parmi les gens qui sont les plus impliqués? Les gens qui se voient 3-4 fois par semaine, les gens qui servent le Seigneur ensemble, c'est connu, mais c'est une myriade, le pasteur et le pasteur adjoint qui ne s'entendent plus. Un diacre et le pasteur, les diacres entre eux, le membre de l'Église et le pasteur qui est très engagé. Ce sont des gens qui sont les plus engagés. Vous vous entendez peut-être à peu près bien avec votre voisin. Vous ne vivez pas avec votre voisin. On vit avec son époux, son épouse, on vit avec ses enfants. Alors, les occasions de ne pas s'entendre sont multipliées par mille. Dans une machine, une roue qui tourne ici et une roue qui tourne là-bas ne se rencontrant jamais, n'auront jamais le moindre problème pas interpersonnel, mais interroue. Mais les roues qui tournent ici auront des problèmes. Je crois quand même que je vais le faire à l'envers. Enfin bon. Les roues qui sont ici tourneront, auront des problèmes. Parce que il y a un point de contact, il y a donc possibilité de friction. S'il n'y a pas de friction dans vos relations avec les autres personnes de l'Église, les autres responsables, ne vous inquiétez pas, il y en aura. Il y en aura. Et pour ça, encore une fois, c'est ces fameux critères objectifs, toujours qui commandent, qui permettent d'évacuer tout ce qui peut venir de la chair. Et la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, souvent, ne se rendent pas compte, ils ne ressentent rien. Ce sont les gens qui les entourent qui voient qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. On peut savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit quand on ne veut être rempli de rien d'autre. Le Saint-Esprit habite déjà en nous. Si nous ne permettons pas au péché de loger dans notre cœur, par différentes attitudes, si nous reconnaissons ces attitudes comme coupables, si nous demandons à Dieu de nous pardonner, si nous décidons de les chasser, si nous ne permettons pas qu'elles prennent racine dans notre âme, eh bien, on va les vider de notre âme. Et quand ces choses sont vidées de notre âme, nous sommes naturellement remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons automatiquement cet amour agapé. Et nous considérons notre frère et notre sœur comme Dieu le considère à sa place, et nous l'aimons, et nous travaillons avec lui ou avec elle. Et que la personne nous plaise moyennement beaucoup ou peu, ça n'entre plus en ligne de compte. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas là que la question se situe. La question se situe au niveau de mon obéissance et de comment Dieu voit cette personne, non pas comment moi je la perçois. Alors, bien sûr, nous sommes responsables des perceptions que nous donnons. Ce n'est pas une raison pour Nicolas de dire, ben, puisque tout le monde doit m'aimer, moi, je vais être vraiment désagréable avec eux et je vais tester leur amour agapé. Ce n'est pas une raison de faire ça, non. Nous devons, au contraire, chercher à ne créer aucun obstacle à ce que les gens nous aiment. Et quand il y a un obstacle pour que les gens nous aiment, généralement, nous sommes les derniers à nous en rendre compte. Moi, je croyais que j'étais aimable. Eh bien, moi, je ne vous supporte pas. Ah bon? Et pourquoi? Et ça, et ça, et ça. Ah bon? Mais je n'en avais aucune idée. Ma tante, tu le fais exprès ou quoi? Non! Jésus l'a dit. Vous avez une bûche dans votre œil. Et dans la Bible, c'est une grosse bûche. On ne la voit pas. Et dans l'œil de l'autre, on voit la petite bout de bois, mais alors minuscule, presque micro. On le voit parfaitement bien. On ne se voit pas, on voit l'autre. Nous n'avons aucune idée à quel point nous pouvons même être pénibles pour les autres. C'est effrayant, non? On n'a aucune idée la plupart du temps. Mais il faut imaginer que ça doit être le cas quelquefois. Et ça nous permet justement d'être humbles, de dire, bon, je ne me connais pas non plus. Alors, je vais vraiment, vraiment faire attention. Parce que on est tous dans le même panier, quoi. Je vais les accepter. Au moins en ce qui me concerne. Comme ça, j'aurai la plénitude du Saint-Esprit. La question est celle-ci, c'est très simple. Voulons-nous ou ne voulons-nous pas la plénitude du Saint-Esprit? La question est là. Et la plénitude du Saint-Esprit passe par la confession du péché. Il n'y a rien d'autre, c'est tout simple. Elle est automatique dès que le péché est confessé. En tout cas, cet amour s'exprime parmi les chrétiens par l'effet du Saint-Esprit, on vient de le voir. L'amour chrétien, donc l'amour que nous avons pour Dieu, s'exprime par une obéissance implicite à tous les commandements. Je pense à Jean 14, vous connaissez, 1 Jean 2,5, qui parle beaucoup de cet amour agapé. 1 Jean 2,5. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Alors là, vous regardez un peu 1 Jean et vous verrez constamment cette phrase, ce mot « nous savons ». Nous savons que nous sommes en lui quand nous gardons ses commandements. Nous gardons ses commandements, l'amour de Dieu est parfait ou complet ou accompli en nous. Ça rejoint notre thème que l'amour agapé se voit surtout dans les actes. C'est dans les actes qu'on le voit. Et pas dans les paroles. Ah donc, cet amour agapé qu'on exerce envers les autres chrétiens ou envers les hommes en général, ce n'est pas une impulsion venant des sentiments. Ce n'est pas quelque chose de sentimental. Ça ne correspond pas à nos penchants naturels. Et ne se manifeste pas uniquement avec des gens avec lesquels on a des affinités. Il n'y a rien de mauvais à avoir des affinités avec des gens. Vous avez des amis très proches, peut-être une copine, vous les filles, très très proches, et vous dites, tiens, passons nos vacances ensemble, partons pendant un mois, on sera toutes les deux, on va vraiment s'éclater, on s'entend hyper bien, etc., etc. Il n'y a rien de mauvais avec ça, mais ce n'est pas l'amour agapé. C'est l'amour filéo. Et quand vous voyez que vous êtes tellement complices et tellement copines, ah vraiment, c'est l'amour agapé qui nous unit. Non, pas dans ce domaine-là. Par contre, si vous pensez à quelqu'un dans votre église ou dans votre quartier qui vous pose beaucoup de problèmes et vous priez fidèlement que Dieu touche son cœur et vous priez que Dieu le bénisse autant qu'il le peut, etc. Là, c'est de l'amour agapé. Il n'y avait aucun sentiment de complicité. Vous priez, mais on n'a vraiment pas envie peut-être de prier, mais vous le faites quand même parce que vous savez que c'est, ça, c'est l'amour agapé. Manifester en l'acte de prier. Donc, comme il dit en Romains 15, 12, Romains 13, 8 à 10, l'amour cherche le bien de tout le monde et l'amour ne fait de mal à personne. L'amour agapé recherche les occasions de faire du bien à tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Regardons Matthieu 5. Matthieu 5. Versets 43 et suivants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, quand votre Père céleste est parfait. Ça, c'est concernant nos ennemis. Dieu nous demande un amour moral. Ce n'est pas un amour sentimental ici. Dieu ne vous demande pas de dire « Ah, toi que je ne supporte pas, ah, mais c'est merveilleux, j'ai décidé de t'aimer, viens dans mes bras, mon ennemi, que je puisse te... hein? » Je sens un débordement d'amour pour toi dans mon cœur. Profites-en tant que c'est là parce que ça n'a pas duré longtemps. Hein? C'est pas d'amour sentimental. Mince, j'ai perdu mon amour pour mon ennemi. Il faut que je le retrouve. C'est un amour moral. C'est-à-dire, c'est une décision. C'est le désir du bien de son ennemi. Un désir de manifester de la bonté et de la compassion pour cette personne qui ne nous aime pas. Pourquoi? Le Seigneur dit, je veux que vous montrez que vous êtes les enfants de Dieu par la ressemblance entre lui et vous. Alors, mais oui, mais quelle est la preuve que Dieu aime tout le monde? Eh bien, quand il pleut, merci beaucoup, sur des gens vraiment sympathiques, il pleut dans les champs des gens qui sont athées. Il y a des gens qui lèvent le poing. « Dieu n'existe pas, grâce à Dieu, je sais qu'il n'existe pas. » Et la pluie tombe sur leur maïs et ils ont un magnifique moisson de maïs. J'ai la pluie parce que Dieu n'existe pas, voilà. Ça prouve que l'athéisme, ça marche mieux que l'autre là-bas, le chrétien là-bas. Et Dieu, il devrait le frapper de mort, non? Le rendre paralysé au moins, le faire tomber du tracteur, quelque chose. Non, pas du tout. Il vit longtemps, il a des enfants, des petits-enfants, enfin, tout va bien, et c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Et pourtant, cette personne montre de la haine ou de l'indifférence envers Dieu toute sa vie. C'est Ézède, encore une fois, hein? C'est cet amour général, amour agapé. Et donc, Dieu dit oui, mais les gens qui n'aiment que leurs amis, c'est les publicains et les païens, mais ça, n'importe qui peut le faire. Mais moi, j'ai un amour différent, il faut montrer cet amour-là, l'amour agapé. Alors, l'autre terme apparaissant dans le Nouveau Testament, c'est le mot philéo, une tendre affection. Il fait référence à une démonstration directe, peut signifier faire un baiser. Je te fais la bise. En France, c'est comme ça. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ça m'est arrivé des quantités de fois. Soit moi, je le dis, ou soit l'autre personne me dit bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous, Timothée, d'accord, moi, je dis, bonjour, on se serre la main, on s'assied, on parle 2, 3, 4 heures, on partage beaucoup de choses, la personne livre son cœur, je parle de mes expériences, et tout cela, et on, soit parfois un converti, soit un chrétien, mais on sent qu'il y a un lien qui s'établit, vous savez. Et à la fin, on se lève, la conversation a pris fin, on se sent vraiment heureux d'avoir eu cette conversation. Et quelqu'un l'a dit à l'autre, « Allez, je te fais la bise. Je te fais la bise. » Qu'est-ce que ça veut dire en culture française? Ça veut dire que j'étais favorablement disposé envers vous avant, au début de cette conversation, mais nous avons tellement échangé et parlé ensemble que je sens que vraiment on a quelque chose, on a filéo, on a un estime mutuelle. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Ça me ferait encore plaisir, dès que je le pourrai, d'être avec vous, parler avec vous. Je vous considère comme un ami et je vous montrerai cette affection que j'ai pour vous à travers la conversation qu'on vient d'avoir. Ça ne se passe pas avec des personnes plus âgées, ça se passe plutôt avec des jeunes. Hein. Mais c'est philéo. Et le mot vient du philo, qui veut dire littéralement « presser ou embrasser ». Alors, Jésus et Lazare avaient cet amour entre eux. Jean 11, 36. Jésus aimait Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Philéo. Alors, bien sûr, deux hommes qui s'entendent et qui aiment être ensemble, qui sont vraiment des copains, comme on dit aujourd'hui, des potes, c'est ce philéo. Les jeunes aujourd'hui ont ça, beaucoup d'entre eux ont ça. Au lycée. Ma fille a là trois copines, elles sont 20 dans sa classe. Et c'est juste pour montrer un peu comment c'est aujourd'hui dans les lycées, n'est-ce pas? Ils sont 20, alors tous les jeunes font la bise à tous les jeunes de la classe, tous les jours au lycée, pour arriver et pour partir. Je trouve ça fait beaucoup d'embrassades, mais c'est comme ça que ça se passe. Et surtout des rhumes. Et alors après, il y avait un, la semaine dernière, qui a dit à Sephora, et pourquoi tu ne me fais plus la bise? Tu as quelque chose contre moi? Non, rien du tout, Julien. Mais oui, mais je ne sais pas, depuis quelques semaines, tu ne le fais pas. Ma fille dit, mais t'as une copine, et chaque fois que je viens dans la salle rase, tu parles avec ta copine, moi je ne veux pas vous déranger. Ah bon, parce que je trouve que c'était pas normal, moi ça m'a un peu attristé. Ah bon, mais si ce n'est que ça, je te ferai la bise tous les jours. Alors, elle interrompt, salut Julien, salut copine. Et donc, c'est filer, c'est la salutation, quoi. Mais, elle a trois copines, avec lesquelles elle va passer presque tout son temps. Et on mange ensemble, et où est-ce que tu es? Je suis dans le couloir, ah oui, je te rejoins, tu viens avec moi. Vous savez, on peut être seul, il faut être toujours avec une, deux ou les trois ensemble. Je vais au petit coin, ah ben je vais avec toi. Bon. Je vous épargne les détails, mais philéo, c'est ça, c'est vraiment cette affection, ce copinage, comme on dit aujourd'hui. C'est une émotion. Et c'est de l'affection. Bien sûr, pour Jésus et Lazare, Marie et Marc, c'était plus que ça. C'était beaucoup plus du copinage du lycée. Jésus aimait vraiment aller chez Lazare, Marc et Marie. Il aimait beaucoup ces trois. Alors, la Bible dit qu'il aimait Lazare et Marie et Marthe. Il y a des gens qui ont peut-être vu n'importe quoi. Jésus aimait Marc et Marie, ça y est. Il avait des maîtresses, et puis Lazare, il a... Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il passait là, mais il organisait quelquefois ses séjours pour s'arrêter à Béthanie, passer du temps avec eux. Il les aimait beaucoup, Philéo. Alors, c'est intéressant parce que Dieu, le Père, aime Dieu le Fils avec l'amour agapé et l'amour Philéo. Par exemple, en Jean 5, verset 20. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ça, c'est un verset absolument étonnant. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ça vous arrive quand vous avez vraiment un bon copain ou une bonne copine? La personne arrive chez vous, viens dans ma chambre, j'ai des choses à te raconter, des trucs à te dire, surtout entre filles. Alors on se met les jambes croisées sur le lit et on raconte. Et regarde, j'ai reçu cette lettre, tu sais, Lila, qu'est-ce que tu en penses? Et puis tu as vu, j'ai fait ce petit tableau, regarde, j'ai fait cette carte pour ma mère, c'est pour son anniversaire, je l'ai fait moi-même, qu'est-ce que tu en penses? Et, ah oui, tu sais, et puis j'ai vu, et puis etc. Et on montre tout ce qu'on fait, on raconte tous ces petits secrets. Et tu sais, j'ai un truc à te dire, mais ça me brûle les lèvres, il fallait que je te voie et tout. On la porte est fermée, la mère dit, bon, ma fille est avec sa copine dans sa chambre, il y en a pour des heures. Dieu le Père, il dit à Dieu le Fils, regarde ce que tu viens de faire, regarde ça, c'est super. Vous dites, non, mais attention. Il dit, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Le Père, disait Jésus, va montrer à son Fils des œuvres plus grandes que celles qu'il avait déjà vues, afin que vous soyez dans l'étonnement. On a l'impression là que le Père dit à son Fils, « Tu regardes, tu vas faire tel ou tel miracle, tu vas marcher sur les eaux aujourd'hui. » Ah ouais, d'accord. Et là, tu vas nourrir 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. Et puis là, tu vas ressusciter des morts. Ouais. Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Vous dites, mais il savait tout depuis le début. Oui, mais Jésus-Christ est devenu homme. Dieu est devenu homme. Et il y a une philéo, il y a une camaraderie, il y a une intimité, il y a un vrai amour et ils ont envie d'être ensemble, le Père et le Fils. Là, nous pénétrons dans l'intimité de la Trinité. Il n'y a pas uniquement cet amour agapao, il y a aussi cette réelle affection, le désir intense de passer du temps ensemble. Nous avons tendance, nous, Dieu est tellement loin de nous, on dit Dieu n'est pas comme nous, il n'a pas de sentiments, je vous aime, agapao. Oh, merci. Mais c'est pas comme ça! Nous, on a toutes ces émotions d'amour qui agitent notre cœur et nos sentiments et nos émotions, mais Dieu les a aussi, sans péché. Sans égoïsme, il les a aussi. Alors, pour le croyant, par exemple, le Père aime le croyant, agapao, Jean 14, 21, mais philéo, Jean 16, 27. Jean 16, 27, où il dit, le Père lui-même vous aime, philéo. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alors, philéo n'est jamais utilisé pour un commandement envers l'homme d'aimer Dieu. Dieu ne dit jamais à l'homme, ben, de manière, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il ne dit pas, tu auras une tendre affection et un élan du cœur envers Dieu. C'est bien d'avoir ça. Mais ce n'est pas un commandement. Parce que vous ne pouvez pas commander les sentiments. Tu aimeras l'Éternel, agapao. Tu décides d'aimer Dieu de tout ton cœur et de le servir. Mais en Corinthiens 16, 22, c'est la seule fois que c'est utilisé ici, dans ce sens. En Corinthiens 16, 22, c'est le mot philéo. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Alors regardez ce qu'il dit un peu plus haut, verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Il dit aux frères et aux sœurs de l'église de Corinthe, qui étaient plutôt orgueilleux, plutôt hautains, imbus d'eux-mêmes, en dispute constante, claniques, immoraux, il dit, aimez-vous et saluez-vous les uns les autres. Attention, Corinthiens, avec un saint baiser. Je me souviens, dans notre groupe de jeunes, il y a quelques années, une jeune fille venue me trouver, elle a dit, tu sais, dans notre groupe de jeunes, il y a des garçons et des filles. Je dis, oui, je suis au courant. Ils étaient une vingtaine à l'époque, des 18-25 ans. Elle a dit, eh bien, tous les garçons et toutes les filles, on se salue au groupe de jeunes, on se fait la bise, quoi. Oui, oui, je dis, je sais, moi je le fais aussi. Et elle a dit, oui, mais il y a un garçon qui ne me le fait pas comme les autres. Et ça me gêne. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il faisait comme les autres, mais elle sentait que ce n'était pas comme les autres. Le baiser n'était pas sain. On le sent tout de suite. Il y a une manière de le faire. Il y a surtout des attitudes qu'il faut avoir. Et là, les jeunes, on a intérêt à avoir cette attitude biblique qui est frère-sœur. Et pas... Je vais faire la bise au début du groupe de jeunes, à la fin du groupe de jeunes, entre la réunion de prière et l'étude biblique. Je vais même revenir une deuxième fois au cas où je l'ai oublié. Non. Et évidemment, il y avait un problème. Donc, on a parlé au garçon. Oui, oui, ben, il aimait bien cette fille, il voulait aller plus loin, etc. Mais elle ne voulait pas, mais elle a senti immédiatement. C'était pas pur. Donc, le saint baiser, c'est un saint baiser. Alors, il y a toutes les cultures qui ne supportent pas. Aux États-Unis, par exemple, c'est même pas la peine de parler. Le baiser, là-bas, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas du tout fraternel. C'est romantique. C'est pour le couple, à la limite pour la famille, mais pas pour des gens hors de la famille. Point. Donc, c'est même pas la peine. Par contre, il vous serre dans les bras. Alors, ça me plaît moyennement aussi, mais bon, un hug, voilà. Mais bon, chacun a sa culture, mais l'esprit doit être pur dans l'affaire. Et là, dans ce contexte, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, et c'est le mot philéo, si quelqu'un n'a pas une tendre affection envers le Seigneur, qu'il soit anathème. Il est touché là où ça touche. Les Corinthiens. Il aura parlé d'agapao, bien sûr, en Corinthiens 13, c'est agapao. Mais il y a aussi une tendre affection pour le Seigneur. Donc, Dieu ne nous demande pas, et heureusement pour nous, Dieu ne nous demande pas, philéo, une affection personnelle envers nos ennemis. Il ne demande pas un amour philéo pour nos ennemis. Ayez une tendre affection pour eux. Peut pas, puisque c'est un amour qui vient des sentiments. C'est pas un amour mauvais, on l'a vu, Dieu a cet amour. Dieu l'a manifeste envers nous, et nous devons le manifester les uns envers les autres, dans la foi. Mais on n'est pas tenu d'avoir une tendre affection pour nos ennemis, parce que ce n'est pas compatible avec nos émotions et nos sentiments, on ne peut pas. Par contre, on a l'ordre d'avoir l'amour agapao pour nos ennemis. Cette décision de vouloir leur bien, de chercher leur meilleur intérêt. Alors, ça nous amène à deux versets avec lesquels on termine. Jean 21, 15 à 17. Fameux passage. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, agapé, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que, philéo, je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, agapé, m'aimes-tu Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je, Philéo, t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, Philéo, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, Philéo. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors là, le Seigneur Jésus, trois fois, il pose la question. La deux premières fois, il montre le standard « amour agapé ». Les deux fois, Pierre n'ose pas employer ce mot. La troisième fois, le Seigneur descend ses exigences et reste sur le filéo. Et là, il permet à Pierre de répondre à son niveau, filéo. Je trouve ça touchant. Ce n'est pas un échec pour Pierre. Si Jésus avait dit trois fois agapao, et Pierre aurait dû filéo chaque fois, ça aurait été trois échecs, n'est-ce pas? Mais Jésus s'est mis au niveau de Pierre pour le restaurer. Et la seule manière dont on peut aider les autres à croître, c'est se mettre à leur niveau pour les aider à monter. Non pas être en haut en disant, je suis en haut, toi tu es en bas. Grimpe. Je ne peux pas. T'es nul ou quoi? Oui. Mais tant pis pour toi, il faut qu'il y ait des forts et des faibles. Non. On descend et on l'accompagne. Et Jésus est descendu au niveau de Pierre, il l'a accompagné. Jésus a restauré, c'est le début de la restauration de Pierre. Et Pierre, il a été totalement restauré. Il a reçu le Saint-Esprit avec les autres, il a prêché le premier grand message, il a ouvert la porte aux païens, aux demi-païens et aux juifs. Il a fait tout ce que... Il n'a perdu aucun des mandats que le Seigneur Jésus lui avait confiés. Donc, l'apôtre Pierre a été restauré par le Seigneur. Alors, l'idée ici, Jésus dit à Pierre, « Est-ce que tu me chéris au-dessus de toute autre chose? Est-ce que tu veux manifester une affection pour moi avec constance ?» Motivé par la vénération la plus profonde. Philéo, ce n'est pas simplement copain-copain. Bon, quand on est jeune, on est un peu superficiel de toute façon, parce que pour être profond, il faut avoir vécu un peu dans la vie. Hein. Quand on est jeune, ben, on est à peu près un peu superficiel, on ne connaît pas toutes les épreuves de la vie. Mais Philéo, c'est une vénération, un vrai respect, une constante affection. Une tendresse. Et ça aussi, ça s'apprend. Quelquefois, on voit des vieux couples qui ont vraiment appris cette filéo. Alors, vous regardez la femme, vous dites, mais c'est pas Miss America. Elle a déjà 70 ans, par là, elle est ridée, etc. Moi et le monsieur, c'est pas Monsieur Univers non plus. Ils sont vieux, ils sont fatigués, leur corps est usé. Mais vous les voyez et vous les trouvez beaux. Ils sont tellement beaux. Et qu'est-ce qui est tellement attrayant? C'est qu'ils ont développé cet amour filéo. Ils en ont fait une science, un art. Alors on voit le vieux monsieur qui il commence à aller vers la porte et de suite il se retourne pour voir si sa femme ne vient pas. Elle parle avec quelqu'un, il revient, il se tient à son côté, patient. Quand ils étaient jeunes, « Allez chérie, on y va, allez, viens, on a des choses à faire et tout, moi j'ai pas le temps à perdre, tout ça. » Tout ça est bien derrière eux. Il a dit, « Je vais prendre du temps. C'est ma femme, qu'est-ce que j'ai à faire ? » Qu'est-ce que j'ai à faire à part être avec ma femme ? Et l'aimer, et la respecter, et l'accompagner. Et puis, c'est des petits mots doux le matin. Puis, C'est vrai qu'ils ont ralenti, mais on voit dans leur regard un amour, une constance que seule la maturité peut donner. Et c'est un amour qui devient lumineux. L'amour conjugal doit devenir quelque chose de plus en plus lumineux. Au début, quand on est jeune, c'est assez passionnel, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais à mesure que le temps passe, il y a un véritable filéo, une communion des esprits. Toutes ces années d'accompagnement, tous les problèmes qu'on a eus, les enfants qu'on a éduqués, les petits-enfants, et il y a un attachement, ils sont à l'aise l'un avec l'autre, ils se connaissent vraiment bien, ils ont décidé de s'accepter l'un l'autre, et c'est devient quelque chose de vraiment merveilleux à regarder. C'est ce que Dieu veut dans l'Église aussi. Cet amour mûr. Pensez à quelqu'un dans l'Église. Alors ça, c'est un exercice, vous le faites, ne dites rien, surtout par pitié, ne dites rien. Réfléchissez. Vous dites, j'aimerais développer cet amour. Pensez à quelqu'un dans l'Église dont vous dites, cette personne, c'est mon épreuve. OK? C'est mon épreuve. Et quelqu'un vient vous voir. Que pensez-vous de cette personne? Et elle commence à sortir toutes les faiblesses que vous avez remarquées. Ah! Je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Heureusement qu'il y a d'autres qui sont intelligents comme moi, qui ont vu ces faiblesses, mais alors que, comme des maisons. Heureusement, je ne suis pas normal. Je vois bien que... Et vous décidez... Attends, j'ai pris la décision, amour agapé, amour filéo. Je vais devoir défendre cette personne devant la personne qui vient de me dire tous ses défauts. Comment je fais? Alors vous commencez. Ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois en tant que pasteur. Expliquer quelqu'un à quelqu'un d'autre. On a une dame qui vient à notre église. Alors, si vous la rencontriez, vous ne l'oublierez jamais. C'est une femme de 70 ans, qui n'est pas peignée, qui sort de sa campagne, qui arrive, oui, voilà, qui arrive avec sa petite voiture. Boum! Elle a une canne, elle a mal partout, elle a besoin d'une opération. Bonjour. Voilà. Une vraie... Oui, 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 voilà, tu la connais, tu la connais. Et alors... Or, d'autres gens sont venus et tout ça, et puis ils m'ont posé des questions par rapport à cette dame. Alors, elle est rigolote, hein, elle a des problèmes. Et tout, alors elle est raciste, après elle a plein de problèmes. Mais on a pris le temps de parler avec elle, on la connaît. Et donc, il m'est arrivé plein de fois d'expliquer cette femme. Je dis, savez-vous, son père l'a battue depuis qu'elle est toute petite. Il était ivrogne. Sa mère ne l'a jamais aimée. Elle était fille unique. À 16 ans, elle s'est enfuie vers la grande ville. Elle est tombée sur un type qui l'a prise comme femme. Elle a dû faire des études pour devenir aide-soignante. Elle a travaillé 35 ans comme aide-soignante. Son mari, à son tour, est devenu ivrogne. À sa retraite, ils sont descendus de la maison familiale. Elle a soigné jusqu'à la mort de cirrhose de foie, tout en travaillant pour maintenir. Son fils est devenu moitié fou. Il est parti aux États-Unis, on ne l'a pas vu depuis des années et des années. Il est revenu deux fois, il était impossible, buvant, fumant, la traitant de tous les noms. Enfin, elle a perdu sa seule fille, elle a perdu à l'âge de 9 ans, d'une maladie. J'ai dit, elle était chez les pentecôtistes, elle a pris un peu la Bible, mais elle ne connaît pas beaucoup de choses sur la doctrine. Elle vient... C'est vrai qu'elle est caractérielle. C'est vrai qu'elle est vraiment incroyablement... Mais, mettez-vous un peu à sa place. Comment seriez-vous aujourd'hui si vous avez eu la vivre qu'elle a vécue? Ah oui, vu comme ça. Je dis, mais vous savez, cette femme, elle aime le Seigneur. De ce qu'elle connaît, elle aime le Seigneur. Et quand elle prie, elle est vraiment heureuse. Alors, il y a quelque temps, On a une voisine qui vient aussi de notre culte, 84 ans, catholique, mais sans plus maintenant, mais ne connaît pas vraiment la doctrine de Dieu ni rien. Et ces deux femmes ont eu une dispute il y a quelques années dans une réunion de troisième âge sur des terrains agricoles qui appartenaient à l'une ou à l'autre. Enfin bon. Et donc la pentecôtiste ne voulait pas voir cette femme au culte. Oh là, qu'est-ce qu'elle va. Et elle va encore me reprendre et tout ça, et moi je ne veux pas la voir. Je dis écoutez, peut-être, etc. Bon. Elle est venue, elle était un peu comme ça, un peu. Mais bon, ça s'est bien passé, ils ont parlé un peu ensemble quand même. Et puis, elle a dit, je ne peux pas prier avec cette femme. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Avec elle au culte, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. Bon. J'ai encouragé à prier. Et un jour, pendant le culte, tout à coup, elle a prié devant cette dame. Mais elle a prié, mais bien, elle a bien prié. Et c'était libre. Et après le culte, elle vient vers moi. Ah, ah, je n'en reviens pas. J'ai prié devant cette âme. Ah, c'est incroyable. Mais je ne sais pas. Le Saint-Esprit, il a dû me prendre parce que j'ai dit, je ne vais pas prier. Et puis j'ai prié. Oh là là. Et puis, alors, la femme a dit, mais vous avez étudié, vous, hein, vous avez étudié. Ben, vous avez bien prié. Ah bon, vous croyez, vous croyez. Et puis, ça a éliminé un peu cette distance entre elles. Et cette femme, ça date de la semaine dernière, c'est pas vieux. Cette femme m'appelle. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mon fils veut revenir. Mais il, je ne sais pas. Il est fou. Il boit, il fume. Je ne sais pas. Il a des maladies, etc. Et je veux qu'il revienne en France. Mais je veux qu'il reste en France. Mais il va revenir. Et ça va peut-être comme dans 10 ans en arrière. Ouh, elle fait comme ça. Ouh, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne veux pas. Alors, chaque fois qu'il appelait, elle a raccroché, elle a raccroché, elle a raccroché, elle a raccroché. Et puis, il a téléphoné sur le maire du village. Dites à ma mère que j'arrive demain à la gare, je veux qu'elle me cherche. Nous, on lui rend visite. Mais écoutez, nous ne savons pas. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas le recevoir, je ne veux pas le recevoir. Alors, le petit-fils a appelé pour dire, et tout, hein. Le fils est arrivé. Et nous, on l'a cherché à la gare, on l'a amené chez elle. Puis, il était gentil. Puis, il a dit, je veux me rétablir en France. Ça fait 25 ans qu'il est aux États-Unis. Je veux revenir en France. Et rester. Et puis il était gentil avec elle. Et la première nuit s'est passée avec son fils dans la maison, alors qu'elle ne voulait pas le recevoir. Et le lendemain, elle revient chez nous. Elle vient chez nous pour donner le compte-rendu. On ne savait pas à quoi s'attendre. C'est merveilleux! Mon fils, il veut rester en France. Si vous savez, ça fait 25 ans que je prie. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis vieille, je suis toute seule, je suis malade, je suis dans cette maison. Si quelque chose m'arrive, mon fils, il est là-bas à San Francisco, dans la rue, sans loyer, sans travail. Il était malade, il est presque à la mort. J'ai prié depuis 25 ans, Seigneur, ramène mon fils en France. Les gens disaient, arrêtez de prier ça. J'ai prié, Seigneur, ramène mon fils en France. Je ne pouvais pas dormir. Seigneur, ramène mon fils, c'est le seul fils qui me reste. Et le Seigneur a répondu, il est revenu en France, et il est gentil, et moi aussi, je fais attention de ne pas le brusquer, hein. Alors, ce côté de cette femme, on ne la connaissait pas. Métamorphosée. Son petit-fils veut venir, dit à ma grand-mère que je l'aime. Et mon fils, il a dit que mon petit-fils, il est comme lui, il est gentil, et tout, et tout, et tout. Alors, incroyable, à 75 ou 78 ans, elle est en train de renouer avec son fils de 50 ans et son petit-fils de 23 ans, pour lequel elle prie depuis 25 ans, sans espoir, et dans une semaine, tout est tombé en place, et vous ne reconnaîtriez pas cette femme. Sa reconnaissance. Et je dis, mais qui connaît les luttes? Des choses comme ça dans le cœur, l'angoisse d'une femme seule et âgée qui n'a jamais connu l'amour, un vrai amour, avec un fils moitié fou, qui revient dans de bonnes dispositions. Qui peut mesurer sa reconnaissance? Qui peut mesurer l'angoisse qu'elle a eue pendant toutes ces années? Il faut se placer dans la peau des gens. Et quand on le fait, eh bien, on peut expliquer les gens les uns aux autres. Vous dites oui, d'accord, mais enfin, ça c'est pas... Je vous pose une dernière question avec ça, on a fini. Enfin... Si vous étiez un peu bizarre, parce que vous n'êtes pas bizarre, vous êtes normaux, vous autres. Mais si pour certains, vous étiez un peu bizarre, et quelqu'un venait à cet autre frère ou sœur en Christ et disait, oui, vous avez vu ça, ou ça. comment le défendriez-vous? Comment voudriez-vous plutôt qu'on vous défende? Mais il est très bien, mais qu'est-ce que tu dis? Ou bien, c'est vrai, vous avez vu, encore la semaine dernière, j'ai encore vu faire le coup. Hein. Alors, c'est vrai que tu as raison, ben, voilà, c'est vrai, c'est pas possible des gens pareils, etc. Et on parle de vous. On parle de vous. Ça va loin, n'est-ce pas? Bon, enfin, j'arrête là parce que sinon vous allez me lapider. Deux autres petits textes. Jean 12, 25. Mais en fait, Philéo, c'est tout ça. Hein? C'est tout ça. Une tendre affection. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans ce verset-là, c'est le mot philéo, celui qui a une tendre affection pour sa vie, qui a un attachement émotif pour sa vie, la perdra. C'est un désir trop grand de préserver sa vie, c'est oublier le vrai objectif de la vie, et on va avoir la correction du Seigneur. Celui qui aime la vie, la perdra. Dieu va corriger. Maintenant, regardons 1 Pierre 3:10. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, on dirait, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Si quelqu'un veut aimer la vie, et l'autre, quand il dit, si quelqu'un aime la vie, il la perdra. Et là, si quelqu'un veut aimer sa vie. Et on dirait qu'il est d'accord avec ces gens-là. La différence, c'est quoi? C'est dans le mot agapao. Ici, c'est agapao, celui qui agapao la vie. C'est-à-dire, je désire la vivre à cause de ses intérêts véritables pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un veut aimer la vie pour les bonnes raisons, pour la vivre pour, dans le but que Dieu l'a créé pour être vécu, eh bien, qu'il observe ces règles-là et il va aimer la vie. Il va aimer la vie pour les bonnes raisons. Mais s'il a une tendre affection pour sa vie, sa volonté, sa manière de... Il va perdre ça. Il va perdre cela. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans des pays primitifs parce qu'ils ils aiment leur vie. Ils aiment leur confort, leur, etc., etc. Donc, ça, c'est philéo. J'aime mon confort, j'aime mon... Même si j'aime cela. Dieu peut enlever tout cela hein, pour dire que ce n'est pas ça qui est important. C'est l'agapao de la vie qui est important. Voilà. Nous avons terminé.